Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Karine Viard.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
Bonjour Karine Viard, bienvenue sur RTL. Bonjour. 80 films, 49 millions de spectateurs du théâtre 3 César. Franchement, c'est inouï ce truc-là. On dit que vous pouvez tout jouer. Vous êtes la rédactrice en chef du journal inattendu. Aujourd'hui, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voici les titres donc de votre journal. Il va falloir changer de braquet, comme le titre l'Équipe. Après 4 nuls d'affilée, les Bleus doivent se rattraper dès ce soir à Kiev face à l'Ukraine. Sans Mbappé blessé, pourront-ils gagner ce match et le suivant et donc ramener la qualif à la maison? Nous serons dans un instant à Kiev avec Nicolas Georgerot. Combien seront-ils les antipasses, les antivax pour cette 8e journée d'action? C'est un des enjeux de ce premier week-end de septembre, alors que le gouvernement augmente la cadence à la rentrée. Tous vaccinés, c'est l'opération mise en place ce week-end. On vaccine à tour de bras et sans rendez-vous. En France, 45 millions de personnes ont déjà reçu leurs 2 doses, mais un territoire résiste toujours, les Antilles, où la situation est extrêmement tendue. Vous écouterez le témoignage d'Antoine. Il est infirmier, il est parti en renfort là-bas cet été, et il a constaté sur place que le personnel soignant est lui aussi hostile à la vaccination. C'est un document RTL. Parfois, il faut apprendre à vivre avec des fous. C'est l'appel bouleversant d'une jeune femme politique afghane pourchassée par les talibans. Zarifa Ghaffari a fui en Allemagne. Vous l'entendrez. Une mèche blonde, un regard bleu mythique, 24 ans après sa mort, la princesse Diana et l'héroïne de Spencer, un film argentin présenté hier au festival de Venise. La météo avec vous, Céline Dacosta, il fait beau. Mais ça va pas durer?
Oui, des orages qui arrivent cet après-midi en fait, avec ce temps estival qui va continuer demain, la semaine prochaine, parce que les températures sont chaudes, hein, vous l'avez remarqué, cet après-midi la moyenne ira de 25 à 28 degrés sur l'ensemble du pays, et puis semaine prochaine on va souvent dépasser les 30 degrés pour la moitié sud. Alors ces orages concernent quasiment toutes les régions cet après-midi, ils seront localisés, ponctuels et pourront donner de bonnes pluies, mais entre ces orages on aura quand même de larges éclaircies, je vous rassure. Là où on va rester au sec avec un soleil beaucoup plus généreux, c'est près de la Manche, sur les côtes atlantiques et méditerranéennes et le long des frontières du Nord. Quelques coups de tonnerre sont prévus aussi pour le relief corse et puis en toute fin de journée sur l'est des Pyrénées.
Merci Céline Dacosta.
Le journal inattendu sur RTL.
Ne pas s'affoler, mais monter le niveau. C'est la recommandation de l'entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, avant le match Ukraine-France de ce soir. Deuxième match de la trilogie qualificative pour le Mondial 2022. La dynamique des Bleus n'est pas celle d'un champion du monde. Avec 4 matchs d'affilée sans victoire, les hommes de Didier Deschamps sont enfoncés dans leur pire série depuis 2013. Alors ce soir, c'est un peu marche ou Kiev, Nicolas Georgerot.
Alors c'est vrai que Kiev ne rappelle pas de bons souvenirs, les Bleus n'y ont jamais gagné, ils y ont même connu leur seule défaite contre l'Ukraine, c'était lors du barrage pour la Coupe du Monde 2014 qu'ils avaient effacé au match retour. Le rachat post-euro, les amateurs de foot, le grand public l'attendent toujours, le match nul contre la Bosnie est insuffisant pour le moment, trop peu dans le résultat, trop peu dans le contenu, mais il y a une forme d'urgence que la situation comptable dans ce groupe ne traduit pas. Les Bleus peuvent mettre leur principal adversaire dans cette campagne de qualification pour le Mondial à 7 points déjà en cas de succès ce soir. Kylian Mbappé et N'Golo Kanté ne sont pas là, une partie donc de la colonne vertébrale des champions du monde, mais les Bleus dans ce rassemblement de septembre sont à un moment charnière, comme lorsqu'ils avaient réussi à gagner au Portugal fin 2020 et qu'ils avaient montré que les ressorts de la Coupe du Monde fonctionnaient toujours.
Merci Nicolas Georgerot, vous êtes envoyé spécial de RTL à Kiev. RTL aime le foot, vous le savez, ce samedi on refait le match de 18h30 à 20h avec Christian Olivier et ses chroniqueurs et puis RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h avec l'ensemble du service des sports. Le match est à écouter sur RTL et à voir sur M6. Vous serez devant votre télé, Karine Viard?
Non, je ne peux pas vous dire ça, non. Ah. Surtout que ce soir, je fais l'émission de Ruquier, donc...
Oui, on ne peut pas tout faire. Raison de plus. Qu'on peut entendre sur RTL tous les jours dans les grosses têtes, figurez-vous.
Ah bon? D'accord.
Seront-ils encore dans la rue, les Français qui s'opposent au pass sanitaire? Pour le 8e week-end consécutif, plus de 200 manifestations sont prévues en France, organisées par les antivax, mais aussi par les gilets jaunes. Des cortèges qui pourraient bien augmenter, selon la police, avec le retour des vacanciers. Nerissa Emani, vous êtes à Montparnasse, à Paris, où 4 manifestations sont prévues. Nerissa, est-ce qu'il y a du monde et du monde en jaune à l'heure où on parle?
Écoutez, ils sont moins d'une centaine de manifestants pour l'instant réunis face à la tour Montparnasse. Très peu de pancartes, aucune banderole. L'heure est au rassemblement. Beaucoup portent des gilets jaunes. Oui, c'est le cas de Salim, 52 ans, au RSA, vacciné. Il tient un parapluie auquel sont accrochées des cartes d'électeurs. Salim affirme qu'il ne manifeste pas contre le pass sanitaire, mais contre la politique du gouvernement et dénonce le manque de moyens dans les écoles, les hôpitaux. Jérôme, lui, ne porte pas de gilet jaune. Il vient de Beauvais, en Picardie. Ce père de famille est contre la vaccination qui aura des conséquences dans sa famille.
Je trouve ça ultra injuste. Ma femme, elle va être suspendue le 15. Elle est aide à la personne. Depuis 15 ans dans la même association, elle a été maintes et maintes fois donnée comme un bon élément. Ma deuxième chose, c'est pour mon enfant. Parce que là, maintenant, il ne va plus pouvoir rien faire. À l'école, il va être stigmatisé. Il ne va plus pouvoir faire ses sorties scolaires. Dès qu'il y aura un problème dans la classe, il va être mis à la maison. Alors qu'on sait, on n'est pas protégé quand on est vacciné.
Jérôme qui dit avoir trouvé sur internet les notices des vaccins contre le Covid et les avoir lues, mais cela ne suffira pas à le rassurer. Il va donc s'élancer aujourd'hui pour le 8e samedi consécutif, départ à 14h direction Place de la Bastille.
Merci Nerissa Emani en direct de Montparnasse pour RTL. Et pendant que les uns descendent dans la rue pour s'opposer à la vaccination, d'autres partent en renfort aux Antilles où les hôpitaux sont complètement submergés. Antoine est infirmier au CHU de Tours. Il est parti le 10 août en Guadeloupe et vient de rentrer. Il décrit une situation cauchemardesque dans les hôpitaux. Principale cause de l'impressionnante vague épidémique que connaissent les Antilles, la vaccination qui est toujours très faible. À peine un quart de la population ayant reçu au moins une dose là-bas. Et apparemment, les soignants ne se vaccinent pas non plus. On écoute Antoine et c'est un document RTL.
Ça, c'est un sujet qu'on nous a dit de pas trop aborder en arrivant sur place. Mais ce qui était assez étonnant, c'est que c'est eux qui nous en ont parlé quand on est arrivé. Ils nous ont dit « Alors, vous êtes vaccinés, vous en pensez quoi de la vaccination ?» Bon, moi, j'ai essayé d'être le plus discret possible parce que c'était pas le sujet. Mais effectivement, dans les services, vous aviez 95% de personnes, si c'est pas 100% dans la plupart des services, qui étaient non vaccinés et qui continuaient à vouloir être non vaccinés malgré ce qu'ils pouvaient subir dans leur service. Les soignants, leurs proches ont été contaminés, même beaucoup de soignants ont été contaminés. Malgré ça, en tout cas, au jour où je suis parti, le 30 août, c'était toujours une volonté forte de ne pas se faire vacciner. Très rapidement, les équipes locales ont manqué, car contaminées, évidemment. Donc on s'est retrouvés rapidement que nous. Donc on n'était plus en renfort, on était en remplacement. Dans tous les services où on travaillait, quasiment tous, on était majoritairement des renforts, si ce n'est que des renforts. À la fin de ma nuit, par exemple, je recevais des appels tous les jours en disant « Voilà, je suis infirmier, je suis censé être là ce matin, je suis malade et je ne pourrais pas venir. » Et ça, c'était tous les jours.
Voilà le témoignage d'Antoine, infirmier qui revient des Antilles, recueilli par Agathe Landais pour RTL. Rappelons qu'on vaccine à tour de bras et dans toute la France ce week-end. Le gouvernement accélère la cadence à l'approche du cap des 50 millions de primo-vaccinés dans le pays. Karine Viard, vous êtes la rédactrice en chef du journal Inattendu. Aujourd'hui, vous êtes vaccinée, vous ?
Moi, je suis vaccinée, ouais. Je suis doublement vaccinée. Mais moi, je pense que ceux qui ne veulent pas se vacciner, parce que c'est ceux qui sont vaccinés contre les antivax, les antivax qui ne veulent pas se faire vacciner, bah, du coup, ils imputent rien à la sécurité sociale et donc ils assument de ne pas vouloir se faire vacciner. Et s'ils ont le Covid, ils se débrouillent. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient contre le vaccin et qu'en même temps...
Pris en charge.
C'est ça qui ne va pas. On sait que ça coûte très cher de la réanimation, etc. Eux ne se vaccinent pas parce qu'ils pensent que le Covid, c'est rien. Ils ont le droit de le penser. Moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais plus raison qu'eux de... Voilà. Mais juste... Ils assument jusqu'au bout leur position et donc ils ne coûtent rien en soins à la société. Moi, je trouve que ça, ce serait assez juste.
Mais peut-être que le président vous entend, puisqu'il écoute sûrement.
Je pense qu'il m'entend, le président Macron. Je pense qu'il n'adorait que pour moi.
Allez, dans un instant, la suite du journal inattendu dont vous êtes Karine Viard, la rédactrice en chef. Vous savez quel est le point commun entre Jacques Martin et Benjamin Biolay ? Passez-vous. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Karine Viard et Anaïs Bouton.
Dans un instant, Karine Viard, on rentre dans votre univers où Benjamin Biolay, je le disais, côtoie Jacques Martin. Mais tout de suite, les actualités nationales et on part en Afghanistan. L'Afghanistan qui fait face à une catastrophe humanitaire imminente. Ces mots sont ceux du porte-parole de l'ONU, l'organisation qui se réunira le 13 septembre, puisque 20 millions d'Afghans auraient besoin d'aide humanitaire. Écoutez ce témoignage de Zarifa Gharafi, 29 ans, qui était la plus jeune maire du pays. Elle gérait une ville de 50 000 habitants. Les talibans ont tué son père et menacent sa famille. D'Allemagne, où elle est désormais réfugiée, elle implore la communauté internationale de négocier avec ses bourreaux. On écoute.
Malgré tout ce que les talibans m'ont fait subir, ils ont tué mon père, ils ont tenté de me tuer, de tuer mon mari, ils ont détruit ma vie, mon futur. J'essaye de surmonter mon chagrin et de faire appel à eux. Asseyons-nous et discutons. Désormais, ils sont là, peut-être pour des décennies, alors parlons-leur, négocions. Nous devons faire pression sur les talibans pour garantir un minimum de respect des droits humains. Se battre contre eux causera un nouveau désastre dans mon pays. D'autres personnes vont mourir. Parfois, il faut apprendre à vivre avec des fous.
Témoignage recueilli par Lucille Bess pour RTL. 24 ans après sa disparition, la princesse Diana est à l'affiche au Festival de Venise. Le bien nommé chilien Pablo Larraine présentait hier soir Spencer en compétition, son biopic consacré à la princesse rebelle et fragile. On y suit Lady Di, incarnée par Kristen Stewart, pendant 3 jours à Noël dans l'univers très corseté des Windsor. 3 jours où le destin de la princesse va définitivement basculer. Vous auriez pu l'interpréter, hein ?
Lady Di ?
Oui. Vous avez ces mêmes beaux yeux.
Ouais.
C'est un personnage qui vous aurait intéressé ?
Plutôt. Elle a un destin quand même, cette femme, hein, elle est tragique.
Tragique, oui. Et puis en France, on dit Shabada Bada. Deauville sort le tapis rouge et célèbre le Festival du cinéma américain, une 47e édition au casting bien fourni. Au jury, Delphine de Vigan et Denis Podalydès, entre autres, sous l'autorité de Charlotte Gainsbourg. Oliver Stone et Johnny Depp sont attendus cette semaine. Voilà, Karine Viard, c'était Deauville, vous y êtes allée ?
Oh, j'y suis allée par le passé, mais ça fait quelques années que j'y suis pas allée. Mais parce que c'est la rentrée, on m'a proposé plusieurs fois de faire partie du jury, mais c'était la rentrée des classes, donc j'ai toujours privilégié mes enfants au festival de Deauville. Voilà. Mais c'est un festival où il faut aller parce qu'il y a vraiment une très très belle sélection.
Alors Karine Viard, vous venez nous voir pour le journal inattendu. Vous pouvez nous faire un pitch du film pour lequel vous venez nous voir, l'origine du monde, en une minute.
Alors bon, il y a des pitchs qui sont plus faciles que d'autres. Je pense que celui-ci est le plus difficile à faire.
Oui, je pense aussi. C'est probablement le film le plus déjanté.
En fait, je vais pas faire un pitch du film. Je vais juste parler du point de départ. Mon mari, Laurent Lafitte, donc c'est le premier film de Laurent Lafitte. Mon mari, Laurent Lafitte, est atteint d'un mal incroyable, c'est-à-dire que son cœur ne bat plus, mais il continue d'être vivant. Donc, ce qui ne s'explique pas du tout médicalement, je lui propose, moi je joue vraiment une bourgeoise qui fait rien, qui a un gourou, qui fait du yoga toute la journée, tout ça. Je lui propose d'aller voir mon gourou, Nicole Garcia, qui lui dit « Votre cœur est prisonnier du Karunga et il va falloir que je voie la porte de sortie. Il faut que je revienne aux origines, il faut que je revienne à la source. » Alors c'est quoi la source ? Bah c'est là d'où on vient tous. Et donc elle doit voir cette source et on doit prendre en photo là d'où il vient, à savoir le sexe de sa mère.
Interprété par Hélène Vincent,
qui est donc une petite vieille qui ne s'entend pas très bien avec son fils, qui déteste absolument sa belle-fille qui le lui rend bien. Et c'est adapté d'une pièce de théâtre de Sébastien Thierry. C'est une bonne dose d'absurde, mais en fait, cet axiome de départ qui est assez invraisemblable est assez réel, et on rentre dans ce film comme ça, avec un humour, avec une façon de raconter l'histoire qui est tellement pleine de surprises, tellement efficace, tellement jamais vue, si peu convenue. Moi, j'adore ce film.
Il est en tout cas, il est extraordinaire ce film. Et
il est dingue.
Complètement, enfin c'est le film le plus déjanté de la décennie sans doute. On a une heure ensemble, on a préparé votre portrait en musique.
Karine Viard est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Hey baby,
j'aurais pu être au club Méditerranée. J'aurais rencontré quelqu'un qui aurait été super gentil avec moi.
Il y a une espèce d'imagerie de la...
la gourde de province qui débarque à Paris et tout ça. Au bout d'un moment, ça me saoule.
Je pensais pas faire du cinéma, je pensais pas avoir le physique, je pensais pas tout ça. Et j'ai un immense plaisir à faire du cinéma, c'est ce que je préfère, franchement.
Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook
chez ma chef?
Non, mais c'est à toi que je dois rendre des comptes.
Tu viens pas sur ce terrain-là à me dire ce que je dois faire parce que tu me
J'adore la musique, j'aime des choses très différentes, j'ai des goûts très éclectiques.
Quoi qu'il advienne, je fais ce qui me plaît, je suis comme ça.
Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste.
Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition.
Toi, tu as ton caractère. Eh bien, moi, je suis comme ça.
Karine Viard, le journal inattendu.
Alors, il y a parmi vos plus grands rôles de la house, Tony Truant, le guitariste des Vampas, votre ami, des films d'auteur, des comédies populaires. C'est vous, tout ça, Karine Viard.
Ah, c'est moi, tout ça.
C'est
oui.
Intriguant. Et ça tombe bien, on a une heure avec vous. On se retrouve tout de suite après la pub sur RTL.
Le journal inattendu de Karine Viard.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
Journal inattendu sur RTL avec Karine Viard et Anaïs Bouton.
Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne.
Vous chantez, hein? Vous chantez. Ça, c'est Benjamin Violet, un de vos partenaires à l'écran. Vous avez joué avec lui dans un beau film, Les ouais. Apparences. Et cet automne, c'est avec Laurent Lafitte et Vincent Macaigne que vous partagez l'affiche de L'Origine du Monde. Un ovni. Un bijou
du noir,
très provocateur. Le film s'appelle L'Origine du Monde. Vous, est-ce qu'il y a ça à l'origine de votre monde?
Ça va, Magali?
Oui.
T'es contente d'être venue?
Oui.
C'était dimanche aujourd'hui. Est-ce que tu as fait un bon déjeuner?
Oui.
Tu as mangé où?
Ben, dans une madame. C'est une madame, c'est une cousine.
Ah, une madame.
Mamie Belgique.
Mamie Belgique. Qu'est-ce ouais. qu'elle t'avait fait à manger, Mamie Belgique?
Des pommes de terre.
Des frites, hein?
Alors c'est quoi, ouais?
Pourquoi bah, ça, c'est mes dimanches. C'est mes dimanches d'ennui où ma grand-mère regardait tout le temps Jacques Martin. Je n'en pouvais plus. J'étais ado devant Jacques Martin. Elle hurlait de rire comme, voilà, c'était une émission vraiment populaire française. Pendant que moi, devant la télé, je rêvais d'un autre destin. Mais je ouais, m'en suis tapée du Jacques Martin à la télé. Tous les dimanches, c'était atroce.
Vous avez été élevée par vos grands-parents?
J'ai été élevée par mes grands-parents dans la banlieue de Rouen. Je leur
vous les avez adorés?
Ah, je ils les ai adorés. Ils m'ont adoré. Je leur sais gré d'avoir bien voulu s'occuper de moi.
Mais parce que vos parents n'étaient pas là?
Mes parents n'étaient pas là, non. Et du coup, voilà, ça a été vraiment mes tuteurs autour desquels je me suis enroulée comme ça. Mais bon, moi, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais une petite fille pleine de vitalité. Et c'est vrai que j'ai le souvenir comme ça d'un temps infini, d'un ennui, des dimanches qui revenaient. Je voyais arriver les dimanches avec angoisse parce que les gens étaient tous en famille et moi j'étais seule dans un rythme immuable comme ça. On mangeait à 6h30 l'hiver, 7h moins le quart l'été. Je rêvais d'autre chose hein, pour moi-même.
Vous fêtiez Noël en famille ou
Non, pas du tout. Je fêtais Noël avec mes deux grands-parents qui ne faisaient pas manger de trucs particuliers parce que ma grand-mère me disait « Si tu veux un Noël, tu demanderas à tes parents de te le faire. » Mais nous, on est trop vieux, on n'a pas envie de s'embêter. Donc on mangeait rien de précis et j'étais tout le temps devant des films de Jésus quoi. Ah non, Noël
Et vous étiez petite fille élevée par la génération d'au-dessus de celle de vos parents en fait.
Ah ben voilà, oui, tout à fait, avec une culture qui était Luis Mariano Luis Mariano, Annie Cordy. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Paris, en fait, heureusement, à l'adolescence, j'ai rencontré un groupe et notamment une fille qui m'a beaucoup ouvert à une autre culture, qui m'a montré le cinéma américain des années 70 et tout. J'ai eu l'impression de revivre, en fait. Parce que moi, je regardais que les films de KPDP. J'avais vraiment une culture très démodée, en fait, par rapport aux gens de ma génération. Donc, j'ai un peu rattrapé mon retard à l'adolescence.
Alors, à l'origine de votre vocation, il y a une silhouette, un monstre.
Il est venu le temps des cathédrales.
Ça, vous allez la voir dans la tête toute la journée.
C'est Esmeralda. Oui. En fait, j'ai un choc artistique. Je suis petite, donc on regarde tous les grands films de KPDP, tout ça. Mes grands-parents, ils n'ont pas envie de regarder des trucs très pointus. Et puis, on voit Notre-Dame de Paris avec Esmeralda, avec comment elle s'appelle l'italienne.
Ah, Gina Lollobrigida.
Avec Gina Lollobrigida. Et.
Anthony Quinn.
Ce matin, c'est pas évident. Et Anthony Quinn. Et ça a fait exploser les murs de mon existence, c'est-à-dire que j'ai vu Anthony Quinn. Et je ne me suis pas du tout identifiée, j'avais 9 ans, hein, mais je ne me suis pas du tout identifiée à Esmeralda. Pourtant, petite fille, tu t'identifies à la princesse. Non, moi je me suis identifiée à Anthony Quinn. Je me suis complètement identifiée à Louis. Et quand il se balance comme ça en haut de Notre-Dame, qu'il a toutes ces choses à l'intérieur, mais que son physique hideux ne lui permet pas de séduire la femme qu'il aime et tout... Je me suis dit, c'est ça que je veux faire ce qu'il fait, lui. Parce que j'ai eu une émotion, mais j'ai fantasmé sur Anthony Quinn, sur ce monstre, mais j'ai fantasmé mais des mois. Je m'enfermais dans ma chambre et je jouais lui et tout ça. C'était incroyable. Ça a été vraiment un réservoir à fantasmes pour moi, mais pas elle, lui.
C'est
et
drôle.
En fait, rétrospectivement, je pense que je devais me vivre comme monstrueux. C'est-à-dire que...
Pourtant, vous étiez une très jolie petite fille. Hein.
J'étais une très jolie, ravissante petite fille. Mais je pense que l'abandon de mes parents, je l'ai vécu sans doute en me disant je dois être trop monstrueuse, en fait. Il y a quelque chose qui doit être...
Vous placez abandon, vos parents, sur la démission de vos parents.
Oui, tout à fait. Et donc, je me suis dit... Je dois être monstrueuse pour qu'on m'abandonne. Et donc, je me suis complètement identifiée à lui, en sentant à l'intérieur que j'étais gentille, que j'avais quand même aussi beaucoup de choses pour moi. Je pense que ça s'est tricoté un peu comme ça.
Vous êtes donc venue à Paris très jeune, à 17 ans, vous avez galéré, vous êtes fait arnaquer sur les Champs-Élysées, où on vous a proposé 200, où on vous a demandé 200 euros pour faire un casting. Et puis, vous avez finalement obtenu des rôles de bonne copine, pulpeuse dans Délicatessen et Tati Dani. Et puis tout à coup, c'est la consécration.
Alors le César de la meilleure actrice est attribué à Karine Viard dans Haut les cœurs.
Magnifique.
C'était... En revoyant les images, on se dit que vous avez l'air tellement incroyable. Enfin, vous êtes sidérée. Que se passe-t-il à ce moment-là dans votre cœur, dans votre tête? Vous pensez à vos parents, justement?
Oh non, pas du tout.
Pas du tout.
Oh non, mais moi, l'avantage de n'avoir pas été élevée par mes parents, c'est que je suis peu soucieuse de ce que pense ma famille, en fait. Ça m'a donné une liberté extraordinaire. Parce que quand vous n'êtes pas matricé par une famille qui vous dit bah « Dans notre famille, on pense comme ça, tu as le droit de penser autrement. » Mais si tu penses autrement, alors tu prends le contre-pied de ta famille. Moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ce socle-là. Ce qui fait que j'ai eu le sentiment de grandir très libre, très seule, mais très libre. Ça a un gros avantage. Donc, quand il m'arrive ça, je vois... J'ai une émotion très forte parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir rêvé d'être actrice... d'avoir vu ces soirées des Césars, justement, chez mes grands-parents, d'avoir rêvé, d'avoir fantasmé de ça. Et d'un seul coup, c'est moi qui suis à cette place-là. J'ai presque rêvé, je crois, des gens qui peut-être me voyaient et qui avaient le même rêve que moi, en fait. C'est quand tu touches du doigt ton rêve, bon, c'est une récompense, c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'était pas d'avoir un César. Mon rêve, c'était d'avoir... C'était la possibilité d'être actrice, de vivre de mon métier. Ça, déjà, c'était extraordinaire.
Dans un instant, Karine Viard, le rappel des titres. Et puis, retour sur un des très grands succès, très inattendu du cinéma français. À tout de suite sur RTL.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole.
Le journal inattendu de Karine Viard avec Anaïs Bouton sur RTL.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Karine Viard.
13h, les titres de l'actualité.
Anaïs Bouton.
Il y a beaucoup d'enjeux sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont les mots du capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, avant le match de ce soir face à l'Ukraine. Après l'échec de l'Euro et le nul mercredi face à la Bosnie, les tricolores doivent changer de braquet. Ils ont 4 points d'avance pour l'instant sur les Ukrainiens et un espoir, celui de retrouver enfin leur solidité. Coup d'envoi ce soir du match Ukraine-France à 20h45 à écouter sur RTL, à voir sur M6. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Et juste avant, à 18h30, vous retrouverez Christian Olivier et ses chroniqueurs pour On refait le match. Comme vous, RTL aime le foot. En rugby, début de la saison du top 14. Aujourd'hui au programme, Biarritz Bordeaux-Bègle à 14h. À 16h05, Castres-Pau et Brive-Perpignan. Le derby entre le Stade français et le Racing 92 à 18h15. Et enfin, 21h05, Toulon reçoit Montpellier. La vaccination, c'est pour tous et sans rendez-vous. Tout le week-end, c'est l'opération à la rentrée. Tous vaccinés, alors que le cap symbolique des 50 millions de primo-vaccinés devrait être atteint prochainement. Et depuis la rentrée, des centres de vaccination s'invitent aussi dans les collèges et les lycées. Ils n'iront sans doute pas se faire vacciner ce week-end. Ces Français qui manifestent aujourd'hui contre le pass sanitaire. Mais combien seront-ils? C'est tout l'enjeu de ce week-end de rentrée. Karine Viard, c'est à vous de faire la pluie et le beau temps sur RTL. À vous pour la météo.
Un temps encore estival avec des températures qui vont rester chaudes cet après-midi puisque la moyenne ira de 25 à 28 degrés. Côté ciel, ça se gâte un peu avec l'arrivée d'orages qui concerneront une grande partie du pays. Des orages qui seront ponctuels, rassurez-vous, mais qui pourraient localement apporter de bonnes pluies. Rassurez-vous, entre ces orages, on aura tout de même de larges éclaircies. Quelques coups de tonnerre sont également à prévoir sur le relief corse, dans le courant de l'après-midi, et sur l'est des Pyrénées dans la soirée. Pour un temps sec et un soleil plus généreux, direction la pointe nord et le nord-est, des Hauts-de-France à l'Alsace et sur tous nos littoraux.
Vous avez une belle voix. Hein. Vous êtes à l'affiche du film de Laurent Lafitte, L'Origine du Monde, qui est un ovni, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et dans ce film, il est quand même question de maternité, sous des dehors comme ça, très provoquant et très provocateur. Et il y a l'histoire de la filiation de la maternité.
Mais c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'à la fois, c'est extrêmement drôle. Tu éclates de rire vraiment tout le temps.
Et en même temps... Charlotte Rampling qui est extraordinaire dans le rôle de
Charlotte Rampling, Nicole Garcia. Ah oui, Nicole Garcia, qui est extrêmement drôle. Ça laisse une partition de fantaisie aux 5 acteurs qu'on est, qui est extraordinaire.
Vincent Macken.
Voilà, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes degrés dans ce film, qui finalement sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus cruels. Mais je pense que c'est aussi pour cette raison-là que ça marche autant. C'est-à-dire que on se... Laurent Lafitte, c'est ultime de dire je dois photographier le sexe de ma mère. Je veux dire, ça n'existe pas. Et surtout quand cette mère est campée par Hélène Vincent, qui joue une vieille dame qui n'est plus du tout sexuée. Donc on touche là à quelque chose d'un énorme tabou. Et ça nous gêne, mais ça nous fait énormément rire. Et ce qui est étonnant, c'est que on pourrait croire que ce truc un peu potache ne dure pas, mais en fait, non seulement il dure tout un film, mais on est suspendu à l'histoire. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont y arriver, tout ça? C'est assez étonnant.
Donc c'est incroyable. Une interrogation sur le couple, une interrogation sur l'amitié, une interrogation sur la maternité, je l'ai dit.
Absolument.
Votre mère, vous l'avez dit, ne vous a pas élevée. Elle est partie...
Elle a fait ce qu'elle a pu, hein. je lui en veux pas, moi.
Vos parents ont divorcé, vous aviez 4 ans. Elle est partie au Club Med, et vous... enfin au Club Med,
oui,
pour travailler.
Oui,
hein,
travailler
pour rigoler.
Ouais.
Et puis, ils vous ont laissé, votre sœur et vous, à vos grands-parents. Vous, le fait de ne pas avoir eu de mère, comment ça se passe avec vos filles?
Mais comme je vous dis, moi j'ai été assez libre, donc libre de penser les choses que j'avais envie de penser, libre de dire... souvent, je trouve que je suis pas très cadrée d'ailleurs, je dis pas toujours les choses qu'il faudrait dire, je suis pas très convenable. Bon, bah cette liberté-là, je suppose que je l'ai eue aussi en tant que mère, ça a ses avantages et ses inconvénients.
Vous pratiquez pas l'autocensure? C'est-à-dire que là, quand vous me parlez, vous réfléchissez à ce que vous dites en vous disant ça va pouvoir traîner sur les réseaux sociaux.
Non, absolument pas. D'ailleurs, ça peut me jouer des tours, mais bon, je suis comme ça.
Votre nature vous a joué un tour récemment parce que vous avez mis une main aux
fesses. Ah non, mais ça, je ne veux même pas en parler. C'est un non-événement.
D'accord.
Un journaliste se sert de ça pour se faire mousser. C'est un non-événement. Je n'en parlerai même pas.
D'accord. Donc, vous avez une nature très franche, qui parfois vous joue des tours, mais que vous assumez complètement.
Bah, me joue des tours, je suis qui je suis, j'ai ma conscience pour moi. Voilà, là, c'est vrai que on est dans une société qui devient, à mon sens, de plus en plus normative, avec les gardiens de la morale, les redresseurs de tort. Là, le Covid, ça a été quand même l'occasion à beaucoup de gens de te dire tu rentres par là, tu sors par là, tu fais ça, t'as pas le droit de faire ça, tu dois faire ça, ce qui m'est, moi, insupportable. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas qu'on me donne des ordres, je n'aime pas qu'on me contraigne. Bon, bah voilà,
Mais vous allez quand même au restaurant avec votre passe sanitaire.
Ah, bah je vais au restaurant avec mon passe sanitaire, évidemment. Mais c'est pour ça aussi que je me suis fait vacciner. Je me suis fait vacciner parce que j'avais envie d'être libre. Ouais. Et aussi parce que je me dis que c'est une façon de protéger les autres et de se débarrasser de ce virus.
Alors, dans la palette de vos rôles, incroyable, hein, 80 films, vous avez joué une mère handicapée dans la famille Bélier. Vous avez appris le langage des signes facilement ?
Pas difficilement, ça m'a passionnée en tout cas. J'ai adoré cet exercice, ouais.
Et ça vous touche particulièrement le handicap ? Est-ce que vous avez voulu partager avec nous un moment autour des Jeux paralympiques ?
Oui, c'est-à-dire que ce que je trouve merveilleux, le sport a quand même cette vertu incroyable qui est de redonner, enfin je veux dire quand t'es athlète, quand tu participes aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, c'est que tu te sers de ton corps pour exprimer des choses, tu vas au bout de toi-même, t'es dans la performance de toi-même, t'es dans la compétition, c'est merveilleux. Et c'est vrai que les handicapés qui étaient des gens qui ne comptaient pas pour la société, en fait. T'es handicapé, t'es sur le côté, t'es une charge, t'as droit à rien, en fait. Et je trouve que les Jeux paralympiques qui mettent au centre le handicap et qui montrent à quel point des individus sont capables de fournir des efforts extraordinaires, moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est une résilience quand ton corps, voilà, est meurtri avec des histoires qui peuvent être terrifiantes, hein, parce que comment tu es amputé d'un seul coup des deux bras, comment il y a quand même une petite italienne qui s'appelle Bébé Vio, je sais pas quoi, qui fait de l'équitation, qui n'a ni bras ni jambes, et cette gosse a une énergie, elle dépasse quelque chose d'elle-même. Je trouve ça assez fabuleux, c'est des personnalités très fortes.
Le handicap, ça concerne dans son exception large, hein, 12 millions de Français. Donc vous avez voulu partager ce moment avec
et
nous.
Et puis je trouve aussi qu'on voit la société dans laquelle on est à la façon dont la société gère les handicapés.
Alors Nicolas Burnand s'est rendu sur l'esplanade du Trocadéro où les héros des Jeux paralympiques ont rencontré leur public. On l'écoute.
Au pied de la tour Eiffel, les athlètes paralympiques sont longuement applaudis, leurs médailles autour du cou. Puis débute une séance d'autographes.
Rosario, voilà. C'est un S.
Des dizaines de fans attendent leur tour. Une femme avec une béquille s'avance face au Français Damien Tocatlion.
Bonjour.
Ravie de vous rencontrer, c'est extraordinaire. J'ai un handicap aussi. Je viens chercher votre force pour avoir une médaille aussi et puis pour faire le maximum. La course à pied.
En course à pied, tu fais quelle discipline ?
Les 20 km de Paris, là, je prépare.
Génial.
Voilà.
L'important, c'est de prendre du plaisir et puis d'avoir des rêves.
Âgée de 42 ans, Véronica a développé une maladie rare il y a 5 ans suite à une lourde chute. Sa jambe gauche paralysée, le sport l'a sauvée.
Si je ne m'étais pas mis au sport, ça allait très très mal. Je commençais vraiment à ne pas aller bien du tout. Ça faisait 3 ans que j'étais en fauteuil roulant, enfermée chez moi. Des fois, avec un bras en moins, une jambe en moins. Donc je me dis, toi, ok, t'as des douleurs, t'as un handicap, mais eux le font. Donc pourquoi pas moi, en fait.
À Tokyo, Damien Tocatlion a remporté la médaille de bronze en fleuret par équipe.
Quand on fait du sport, on le fait pour soi, mais aussi, à titre d'exemple, on représente la France, on représente tous les Français. Et qu'il y ait des gens pour qui on inspire quelque chose, et surtout un accès au sport, c'est vraiment c'est très gratifiant. Et si moi, je peux apporter ça à quelqu'un, alors je suis plus heureux des hommes.
Ces Jeux paralympiques battent des records d'audience avec plusieurs millions de téléspectateurs français sur certaines compétitions. La rameuse Nathalie Benoît, atteinte de sclérose en plaques, vient de vivre ses seconds JO.
On a une tranche de la population, on est quand même, je crois, 12 millions, tout handicap confondu et du plus faible au plus important aussi. Mais c'est une grosse part finalement de la population française. Tout le monde peut être handicapé du jour au lendemain, il ne faut pas l'oublier. Tant qu'on ne montre pas d'image, on ne peut pas savoir ce que c'est. Plus on va montrer de personnes handicapées, plus ça deviendra normal et banal d'en voir. Et donc moins on fera une fixation là-dessus pour pour que ça devienne la normalité.
Et vous avez une question pour notre invitée Karine Viard.
Ma question, ce serait qu'au lieu de faire jouer à des acteurs valides des rôles de personnes handicapées, ne pourrait-on pas recruter plus d'acteurs déjà en situation de handicap ?
Oui, en soi, ce serait pas mal, mais bon, je mets de côté pour les sourds, mais il faut être acteur aussi. C'est pas juste dire un texte, en fait. C'est l'incarner, c'est le réfléchir. Donc, voilà.
C'était la réponse de Karine Viard. Vous restez avec nous et avec Karine Viard dans un instant, une invitée incroyable du genre de celle qui redonne confiance au genre humain. Rien que ça. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Karine Viard.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
Une chanson douce que me chantait ma maman.
Karine Viard, vous êtes la rédactrice en chef du journal Inattendu. Il y a une question à laquelle vous êtes très sensible, c'est celle du rapport de classe qu'on retrouve dans Chanson douce de Leïla Slimani, dont vous avez acheté les droits pour l'adapter au cinéma. C'est une question qui traverse aussi l'origine du monde. Le couple que vous jouez avec Laurent Lafitte roule en Mercedes, il y a des bougies diptyques, la lampe Pipistrello. Ils ont tous les signes extérieurs de richesse, alors que Hélène Vincent, la mère de Laurent Lafitte, est d'origine très modeste. Pourquoi ça vous intéresse tant ?
Le rapport de classe m'intéresse énormément parce que je trouve qu'il est au cœur de l'individu. C'est-à-dire, tu te mesures, il y a de l'arrogance, il y a de l'humiliation. Je pense que le rapport de classe, c'est quelque chose qu'on connaît tous plus ou moins. Soit tu es d'une tranche supérieure et donc c'est un problème qui ne te traverse et qui ne t'effleure même pas. Soit tu fais partie des gens qui sont, voilà, comme moi je viens d'un milieu assez modeste, donc tu as très conscience de ça. Et je trouve qu'on est dans une société qui met beaucoup ça en avant aussi.
Quand vous êtes arrivé à Paris, de Rouen donc, vous racontez que l'addition au restaurant avec vos copains, c'était une tannée en fait.
C'est-à-dire qu'il faut toujours être un peu conscient. Moi, à la place que j'ai aujourd'hui, où je vis extrêmement confortablement et je suis très consciente de ma chance, j'essaie de n'oublier jamais que les gens n'ont pas forcément le même niveau de vie que moi, que je ne veux pas les mettre mal à l'aise et que je les invite plus spontanément parce que ça peut être compliqué en fait.
Non, mais d'aller manger au restaurant. Oui, c'est ça. Vous avez vécu le fait que j'ai vécu avec ça. Vos copains comédiens.
C'est très présent chez moi, ouais. C'est très très présent chez moi.
Que vous preniez une entrée l'œuf mayo et que ils prenaient entrée plat fromage dessert et qu'après l'addition arrive et qu'on la partage.
Ouais. Moi c'est très présent chez moi parce que je viens d'en bas et que je suis arrivée en haut, alors j'ai cette conscience-là. Et je trouve que c'est assez vertueux de l'avoir.
Alors c'est parce que vous avez cette conscience des fractures françaises. Il y a une grosse étude qui va sortir dans Le Monde lundi et dont on parlera cette semaine sur RTL. C'est donc parce que vous avez conscience de ces fractures que vous avez voulu braquer un coup de projecteur sur l'association Un Repas Avant l'Aube. Bonjour Fiorella Valentini, vous êtes la présidente de l'association.
Bonjour.
Alors je rappelle que selon les associations caritatives, la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté 1 million de pauvres, qui s'ajoute aux 9,3 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Racontez-nous comment est née l'association.
Alors nous, on a commencé nos actions pendant le deuxième confinement, en novembre 2020, parce qu'on est tous étudiants. Ceux qui participent à l'association sont tous étudiants. Du coup, on était tous isolés. Et le but, c'était vraiment de mettre à profit notre temps pour les personnes encore plus isolées que nous et en situation encore plus précaire. Qui sont les personnes sans-abri.
Parce qu'il faut dire que Fiorella a 18 ans.
Hein. Ouais, ouais.
C'est ça qui est merveilleux.
C'est merveilleux.
C'est-à-dire que c'est elle qui va changer le monde, c'est elle qui va changer notre pays. Et c'est pour ça que j'avais envie d'inviter Fiorella, parce qu'effectivement, elle a cette facilité à penser les choses et à les mettre en acte.
Et de là est née l'association Un Repas Avant l'Aube, qu'on a créée du coup en janvier 2021. Qui est une association à destination des personnes sans-abri, une association caritative à but non lucratif.
Alors, comment ça se passe concrètement ? Vous donnez à manger ?
C'est une association de missions de maraude, qui sont des missions où on descend dans la rue, c'est les bénévoles qui vont vers les sans-abri. Et à partir de là, on apporte un soutien matériel en distribuant des repas faits maison, des repas chauds faits maison.
C'est-à-dire que vous fabriquez les repas ?
C'est nous qui faisons tous les repas. Les bénévoles, oui, on cuisine chez les membres de l'association. Tous ensemble avec les bénévoles.
Qu'est-ce que vous faites comme plat ?
Des plats chauds, on fait des lasagnes, des couscous, des pâtes.
Des tartes, tu veux faire des tartes.
Oui, on a fait des quiches, steak haricots verts, vraiment des plats simples qu'on peut tous manger. Le concept, c'est vraiment que ce soit des plats faits maison. Et à partir de là, on va leur distribuer donc les plats chauds qu'on a cuisinés, des boissons chaudes, des vêtements. Et on leur apporte aussi un soutien moral en discutant avec eux, en appelant le SAMU social s'il y a besoin d'appeler le SAMU social, s'ils ont besoin de logement en urgence. Voilà, donc il y a vraiment un aide matériel et un soutien moral.
Et pour l'instant, vous êtes à Paris.
Oui,
pour vous le moment, avez quatre trajets,
on
c'est
ça. On a trois trajets pour le moment, donc trois groupes différents avec des groupes de bénévoles différents. C'est des groupes qui se font, des maraudes qui se font dans le 13e et dans le 5e arrondissement de Paris.
Que vous disent les SDF quand ils vous voient arriver ?
Alors, y a vraiment un lien qui s'est créé parce qu'on fait ça maintenant depuis novembre et on refait les mêmes parcours. Donc, il y a un lien qui se crée entre les bénévoles et entre les personnes sans-abri. Et ils discutent avec nous, ils nous racontent leur quotidien et la plupart nous attendent vraiment d'une semaine à l'autre. Ils sont très contents de nous revoir. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de discuter avec eux et de vraiment faire partie de leur quotidien.
Plus d'hommes, plus de femmes ?
Plus d'hommes. Hommes environ 40, je dirais la quarantaine à peu près.
Et vous n'avez pas encore d'antenne à l'extérieur de Paris ?
Non, pas encore.
Des régions,
pas encore. Non, pas encore. Mais on espère pouvoir le faire. On espère pouvoir s'agrandir de plus en plus.
Comment on peut vous aider ?
Alors, vous pouvez nous aider en s'abonnant au compte Instagram, UR Association. Vous pouvez taper un repas avant l'aube. En faisant des dons, il y a un lien dans la biographie du compte Instagram.
On mettra tout ça sur le...
Et parfait, en adhérant à l'association, en achetant les pulls, on a fait des pulls. Tous les bénéfices sont reversés à l'association. Donc voilà.
Merci beaucoup Fiorella. Merci.
Ouais, c'est pur quoi, c'est une démarche que je trouve tellement merveilleuse, tellement pure, tellement... Ouais, ça m'a vraiment touchée, c'est pour ça que je suis contente d'avoir
merci.
Invité Fiorella.
Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, Karine Viard, nue dans le journal inattendu. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Karine Viard.
Avec Anaïs Bouton sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Karine Viard et Anaïs Bouton.
Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont
tombés dessus. Mais vous avez pas envie de continuer à chanter ?
Ah bah là c'était vraiment l'occasion qui faisait
c'était
de la
quoi ? C'était Louis Chédid qui faisait un...
Exactement, qui prenait des acteurs pour chanter Brassens.
Oh, remettez, Pascal, remonte un peu le potard là.
Toutefois, mourons pour des idées. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.
Vous venez nous parler de l'origine du monde. Vous y jouez nu, une très longue scène, et vos acolytes sont nus aussi.
Un quart d'heure,
vous êtes
madame.
Canon, mais canon.
C'est vrai.
Ça vous pose pas de problème ?
Non seulement ça me pose pas de problème, mais je trouve carrément que c'est militant, quoi. C'est-à-dire que j'ai 50 ans passés, il y a bon nombre de femmes qui estiment qu'à passer 50 ans, elles peuvent pas mettre de t-shirt manches courtes, parce qu'avec les bras qu'elles ont, avec les jambes qu'elles ont... Je n'aime pas, moi, toutes ces injonctions sociétales qui disent « Après 50 ans, tu es plus sexy, tu vaux plus le coup, t'es plus fertile, donc voilà, tu deviens grand-mère, tu te réjouis d'avoir des petits-enfants et tout ça. » Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que la beauté, c'est une chose qui est une conjonction de plein de choses, mais qui émanent de l'intérieur, et qu'un corps différent peut être très beau. Et
ouais,
voilà.
Enfin, vous avez un très beau corps quand même.
Ben, j'ai un très bon corps. En même temps, je travaille. Hein. Je veux dire, je fais du sport pour le coup. Ah ben, t'as pas un très beau corps sans bosser.
Qu'est-ce que vous
un
faites
peu.
Comme sport ?
Ben, je fais de la barre au sol. Là, je me mets un petit peu au cardio parce que j'ai vu que c'était plus nécessaire en fait de brûler un peu. Mais t'as pas un très beau corps pour rien non plus. Hein,
et pendant ce corps, vous l'avez malmené parce que vous avez
ah
été
oui,
boulimique.
J'ai été très boulimique. Moi, j'avais une mère très belle, donc j'ai grandi avec l'idée que ma mère était très belle et que ni ma sœur ni moi on pourrait jamais être aussi belle que ma mère. Bon voilà, je suis actrice, c'était compliqué. Je me suis dit, je suis actrice, mais pas sur mon physique. Ce qui est vrai, on peut pas dire que j'ai fait ma carrière sur mon physique. Et puis après...
Je sais pas, c'est bizarre de dire ça, non ? Pas que, mais enfin, vous avez
un physique. Mon physique m'appartient et évidemment, il appartient de la personne que je suis. Mais je me suis jamais vécue comme belle, moi. Et puis finalement, avec les années qui passent, avec le succès, bah, ça réconcilie, hein, ça réconcilie beaucoup de choses. Donc finalement, je sais pas si je suis belle, mais je suis pas si mal.
Vous avez aussi tourné dans Fantasme des frères Foenkinos, qui est toujours à l'affiche. Et dans L'Origine du Monde, vous prenez des risques, on écoute.
Ah oui. Ah. Oh. On pourrait partir le week-end prochain.
Ah, où ça?
On se prend un petit hôtel sympa.
Tu parles tout le temps après l'amour. Tu sais pas, tu piapiates quoi. Tu peux. T'es tout excité.
Non mais attends, excuse-moi, c'est quoi ce reproche? T'as envie de me faire chier ou quoi? Pardon d'avoir la pêche. Oui, j'ai la pêche. Oui.
Oui, j'ai la pêche. J'avais envie de vous dire, comme dans quand Harry rencontre Sally, je veux bien ce qu'elle a.
Hein? Exactement.
Alors. Là, vous jouez une rôle, on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que vous n'avez pas de limite, que vous pouvez tout jouer, et vous jouez souvent.
Ce qui est faux, hein, ce qui est parfaitement
ah bon
faux.
Qu'est-ce que vous pouvez pas jouer, par exemple?
Déjà, je peux pas jouer ce que je comprends pas.
Par exemple, c'est-à-dire, ce que vous comprenez pas, c'est moi qui comprends pas.
Bah, je peux pas jouer un sentiment que je comprends pas. Moi, en fait, quand je m'empare d'un rôle, je le désosse, je décrypte. C'est-à-dire que je comprends ce qui anime le personnage, je comprends pourquoi il dit ça, je comprends pourquoi il fait ça. Moi, je le ferai pas forcément dans la vie. Mais en tout cas, je comprends ses motivations. Je le comprends.
On a beaucoup entendu parler, par exemple, de Monique Olivier, l'ex-femme de l'assassin Michel Fourniret, par exemple. S'il y avait un film tourné autour de leur épouvantable épopée, est-ce que vous pourriez l'interpréter?
Absolument, ça me passionnerait même, mais j'aurais besoin de la désosser, c'est-à-dire que ça prend racine dans l'enfance, il y a de l'emprise, il y a de la perversité, il y a une forme de négation, je sais pas ce que c'est, ça ne l'excuse pas pour autant, mais je la désosserais pour la comprendre et pouvoir la jouer. Mais il y a aussi des choses que je ne comprends pas. Il y a par exemple des choses que je pourrais pas jouer, c'est-à-dire la princesse qui a toujours raison de penser ce qu'elle pense, qui est gâtée par l'existence et tout ça. Ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas assez d'aspérité, je ne saurais pas par où. Je serais pas crédible.
Alors c'est pour ça que vous prenez parfois des rôles de femmes qui sont presque toxiques, hein. Enfin,
oh, comme bah, carrément, douce, ouais. Carrément. Les chatouilles.
Oui, les chatouilles.
Bien toxiques aussi.
Les chatouilles. Effectivement.
Mais parce que c'est passionnant à jouer en fait. Et ça ne me menace pas moi comme individu. Je sais exactement qui je suis et où je suis. Je ne suis pas du tout menacée de ça. Et j'ai la liberté de penser que le public. Si tant est que j'en ai un, ne va pas me confondre avec mes rôles.
49 millions de spectateurs. Vous avez un petit public quand même. Hein?
Oui, c'est vrai. Merci public. Mais je veux dire, ça m'amuse moi de faire ça. Ça me passionne. C'est extraordinaire quand on est actrice d'avoir des personnages aussi complexes, aussi sombres, aussi. Et en même temps, j'ai la chance dans L'Origine du Monde que Laurent me propose un personnage complètement dingue et je m'en empare avec la même jubilation.
Oui, parce que vous êtes championne du monde en comédie aussi. Vous avez cette façon incroyable de faire rire.
Moi, je suis bonne en comédie, moi. Ouais. Moi, c'est mon fond de commerce, en fait. Je suis bonne en comédie, mais ça ne me suffit pas. J'ai aussi besoin d'explorer d'autres terrains. Mais je crois vraiment que là où je suis bonne, c'est en comédie.
Faire rire, ça vous est arrivé
après,
à 6
je
ans.
Trouve pas des comédies qui me plaisent. Ah. C'est-à-dire, c'est pour ça que L'Origine du Monde, j'ai trouvé que c'était un cadeau inestimable de Laurent, parce que je ne lis jamais de comédies qui me plaisent tant que ça. Alors si, ça m'arrive heureusement, et quand elles me plaisent, je les fais. Mais souvent, je trouve que c'est un peu popote, c'est des sujets déjà revisités 18 fois, c'est des blagues pas très drôles.
Alors là, c'est pas popote, c'est pas revisité 18 fois,
ah bah
et
non.
C'est des blagues très drôles. Ça s'appelle
oui.
L'Origine du Monde. C'est le premier film, d'ailleurs, de Laurent Lafitte,
ouais.
Avec Vincent McCain.
Et c'est la naissance d'un metteur en scène, parce qu'il a un vrai regard cinématographique, c'est extraordinaire.
Et Nicole Garcia, qui est quand même extraordinaire, extraordinaire. Merci Karine Viard d'avoir choisi Le Journal Inattendu pour rencontrer les auditeurs d'RTL. On peut retrouver l'émission sur rtl.fr. La semaine prochaine, Frédéric Becbédé sera le rédacteur en chef assis à votre place. Et en attendant, vous le savez, sur RTL, il y a une nouvelle émission avec Laurent Deutsch qui s'appelle Entrer dans l'histoire. Bonjour Laurent.
Bonjour Anaïs, bonjour Karine. Bonjour.
Alors, dans quelle histoire entre-t-on aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire de Joseph Goebbels.
Goebbels? Mais pourquoi donc?
Pour une femme. Eh oui, Parce qu'il a failli tout quitter pour cette femme, et certainement que c'est toute l'histoire du monde qui en aurait été changée.
Ça alors, bah à tout de suite Laurent.
Ça promet.
Merci encore Karine Viard. On se quitte peut-être en écoutant votre chanson, quelques notes de votre chanson préférée, ou une de vos chansons préférées.
Voilà.
Excellent week-end. Sous le soleil, attention aux orages, et sur RTL.
Le journal inattendu, RTL. Revivre ensemble. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.